puissant d'éternel se confond au vent. La Bible déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et Jésus, dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est notre désir que vous soyez grandement bénis, libérés et transformés par la révélation des vérités du royaume contenues dans ce message. Bonne condition d'écoute et que Dieu vous bénisse.
Nous poursuivons notre enseignement sur pourquoi ne sommes-nous pas grands dans le royaume de Dieu. Amen. Et donc, il y a certaines choses à ne pas faire pour être grand. Donc, il faut les éliminer. Alléluia. Il faut les éliminer. Nous avons pris le texte de Luc chapitre 1, verset 15. Oh, Dieu parle à Zacharie en disant que sa femme Élisabeth va concevoir et l'enfant sera appelé Jean, n'est-ce pas, qui veut dire Dieu fait grâce et il sera grand. La Bible déclare que car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et donc Dieu, on avait expliqué que Dieu préparait Jean à être grand, mais à des conditions. Amen. C'est une chose à faire pour être grand. Et Dieu, Jean devait observer cela pour être effectivement grand. Et j'avais expliqué que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous serons grands dans le royaume de Dieu. Mais on ne devient pas grand au hasard. On devient grand en faisant certaines choses. Et il faut éviter les raisons qui emmènent les personnes à ne pas être grands dans le royaume. Amen. Nous devons penser du moins le maximum avec Dieu. Être des maximalistes, comme j'avais dit la dernière fois. Et comme raison évoquée, j'avais dit un cœur non reconnaissant. Je fais le rappel du message passé. Un cœur non reconnaissant, on a vu le cas des 10, les 9 autres lépreux, ils étaient 10. Qui ont été guéris, un seul a retourné vers Jésus pour dire, n'est-ce pas, merci. Et Jésus dit, mais et les 9 autres, ne sont-ils pas guéris? La Bible n'a pas dit qu'ils sont sauvés. Ils ont perdu le salut à cause de leur ingratitude. Un cœur non reconnaissant. On a dit que le désir, la raison numéro 2 évoquée pour ne pas être grand, c'est le désir d'être dans la moyenne. Faire comme tout le monde. Ne pas aller au-delà, n'est-ce pas, du statut établi. Nous aimons le statu quo. Et ces choses détruisent le potentiel que Dieu a mis en nous. Ça limite Dieu et ça limite, n'est-ce pas, la puissance de Dieu au travers de nos vies. Raison numéro 2, nous avons parlé du refus de payer le prix pour être honoré. Jésus pouvait dire au fils de Zébédée, pour être honoré, il faut boire la coupe. N'est-ce pas? Pour boire la coupe, pour payer le prix. Jésus lui-même a payé le prix pour avoir ce nom qui soit au-dessus de tout nom. Et donc, plusieurs parmi nous, plusieurs chrétiens, veulent être honorés, mais ne veulent en même temps pas payer le prix. Pour être honoré, il y a un prix à payer. On a vu le cas de Daniel, de Meshach, Abednego, n'est-ce pas? Et de Shadrach, qui ont payé le prix de la grandeur. La quatrième raison, du moins, c'est l'auto-excuse qui paralyse l'action. On a dit plusieurs personnes s'excusent pour ne pas avancer. En Proverbe 26, verset 13, la Bible déclare que le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin et il y a un lion dans la rue. Donc, comme les paresseux, du moins, ils trouvent toujours des arguments. Quelqu'un disait que quand quelqu'un est paresseux, même si tu lui donnes tout le nécessaire. J'ai un homme qui dit que quand quelqu'un est paresseux, même tu lui donnes la nourriture, il veut que tu mettes ça dans sa bouche. Parce qu'il ne veut pas faire l'effort, même en prendre la nourriture pour aller dans sa bouche. Pourquoi? Il a trouvé toujours des arguments en disant mon bras me fait mal. On a vu la mentalité d'esclavage et on a vu les caractéristiques ou les indices d'une mentalité d'esclavage? Qui peut me dire deux indices d'une mentalité d'esclavage qu'on avait vu? Le complexe d'infériorité, il se voit toujours petit. Quoi encore? La dépendance des autres, ça veut dire qu'il tend toujours la main. Tend toujours la main. Il ne veut pas faire les efforts. De sorte qu'un jour, lui aussi, il donne à quelqu'un. Lui, il faut que toujours il tend la main. La dépendance des autres. Le complexe d'infériorité se voit toujours petit. Il ne veut rien faire. Il ne peut jamais réussir. Ce fut le cas d'Israël lorsque ils étaient face, n'est-ce pas, à l'entrée de Canaan. Il y a le pessimisme, la médiocrité, ainsi de suite. Alléluia. Nous allons voir d'autres raisons ce jour. Mais avant de continuer, je voudrais m'accentuer un peu plus sur l'auto-excuse. Nous devons assumer notre responsabilité. Prenons Genèse 3, 10 à 19. Il est écrit en Genèse 3, 10 à 19. La Bible dit, il répondit, c'est Adam qui parle, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3, 10 à 19. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as entendu, tu as mangé du moins de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré, tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voici une scène qui se passe dans le jardin. Dieu dit à l'homme, Adam, il ne faut jamais manger le fruit qui est au milieu de l'arbre. Dieu donne d'abord les instructions avant que Adam, Ève du moins, ne soit créé. Et donc Adam est chargé de veiller à, n'est-ce pas, au respect de cette loi. Sa femme, un jour, je ne sais pas où Adam se trouvait, sa femme, Ève, était en train de causer avec le diable, le serpent. Et le diable, c'est pourquoi il faut faire attention à tous ceux qui rôdent autour de ta femme ou de ton mari. Amen. Parce que moi, je pense que Adam est la personne qui a le plus fauté. Et je ne sais pas où il était, n'est-ce pas? Et il est sa femme et le diable cause avec sa femme. J'ai un frère Abidjan. Il était marié et il était fiancé du moins en son temps. Il y a un frère qui vient dans l'église et chaque fois, c'est auprès des femmes, des épouses, des frères qui tout le temps ils causent. Le gars a dit, si tu t'amuses à ma fiancée, je vais te monter. Et parce qu'il voit, les femmes, il commence à créer des prophéties bizarres. Il dit, je vais te porter à l'église. Et j'ai dit, la raison, il faut préserver ce qui t'appartient. Et attends, la Bible déclare que sa femme mange le fruit et sa femme l'emporte, il mange également. Et quelque temps après, Dieu vient dans le jardin. Dieu dit, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Je dis, mais c'est que tu es nu? Il dit, oui, mais la femme que tu as mise. Toi, dans un premier temps, il ne prend pas la responsabilité. Il dit à Dieu, moi-même j'étais là, je n'ai pas de problème. Et le problème, c'est que toi qui as créé. Donc il jette quoi la responsabilité sur qui? Sur Dieu lui-même d'abord. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Au départ, quand Dieu a donné, il a dit, elle est chair de ma chair, os de mes os. Il a dit, on l'appelait femme. Il était content. Maintenant, le péché vient, il dit, c'est toi qui as fait. C'est pour dire que c'est Dieu qui est le premier responsable. Et il dit, mais la femme que tu as mise auprès de moi a mangé, elle m'en a donné. Donc du coup, voici quelqu'un qui n'assume pas sa responsabilité. Et Dieu se retourne vers la femme et dit, mais pourquoi tu as dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc chacun d'entre eux jette la faute sur quelqu'un d'autre. Sans vouloir assumer leur responsabilité. Mais je crois que si Adam avait demandé pardon, la sentence aurait changé. S'il avait reconnu son tort, je crois personnellement que Dieu aurait changé sa sentence. Mais la femme jette, mais maintenant Dieu va vers le serpent n'a personne. Il n'a personne. Dieu commence par qui d'abord? Serpent. Il revient vers la femme. Écoute, Dieu n'a pas, n'est-ce pas, la sentence de Dieu n'est pas liée au c'est-à-dire que je veux dire à la faute de l'autre, mais à la faute que la personne elle-même a commise. Et donc, tu seras condamné ou tu seras justifié selon ce que tu fais. Pas par rapport à ce que l'autre te demande de faire. Amen. Et vous savez, le succès est une décision. Pour être grand, il faut décider de quelque chose. Il faut assumer ses responsabilités. Vous savez, ce que tu es aujourd'hui est la décision que tu as prise depuis ton enfance. Le mari que tu as, peut-être, est lié à la décision que tu as prise il y a 5 ans. Amen. D'ailleurs, on dit généralement que ta vie reflète 5 ans de décisions passées. Ta vie actuelle. Et donc, ta vie dans 5 ans sera l'image de la décision que tu auras prise maintenant. Et donc, si tu n'as pas un bon mari, tu n'as pas une bonne santé, tu n'as pas une bonne épouse, tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas de bon diplôme, tu n'as pas tout ce que tu n'as pas de bon est lié à ta décision. Tu pourras me dire, mais est-ce ceux ou celles à qui on donne forcément un mari, n'est-ce pas, de force? C'est que tu as décidé que quelqu'un décide à ta place. Amen. Tu dois assumer ta décision. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Les échecs passés, n'est-ce pas? Tu peux rectifier le tir. Tu peux rectifier le tir. Quelqu'un disait que misez plutôt sur vos qualités plutôt que sur vos défauts. Amen. Et c'est pourquoi si tu avais des échecs dans les années passées, ne te focalise pas sur les échecs. Focalise-toi sur l'avenir et prends de nouvelles décisions. Amen pour réussir. La raison numéro 6 pour ne pas être grand dans le royaume, c'est la mentalité de consommateur. Amen. La mentalité de consommateur, c'est quoi? C'est que la personne, ça consiste à venir seulement à l'église et recevoir sans donner. Allez, on vient à l'église pour réclamer la guérison, pour réclamer la prospérité, pour réclamer telle chose, le travail, mais sans pouvoir donner. C'est la mentalité du consommateur. Il est focalisé sur la main de Dieu plutôt que sur la face de Dieu. Amen. Jésus pouvait dire qu'il est avantageux, n'est-ce pas, de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Par moment même, tu n'as rien à donner. Vous savez, pour être grand, il faut donner quelque chose à l'autre. C'est l'échange qui te permet d'avancer. Si tu n'as rien à proposer et que tu consommes, tu deviens plus pauvre. Si ton argent sort et que ça ne rentre pas, pour que ça rentre, il faut proposer quelque chose. N'est-ce pas? Et donc, refuse d'être toujours un consommateur, mais propose quelque chose. Donne par moment. Donc, que tu viens à l'église, focalise-toi sur la face de Dieu plutôt que sur sa main. Beaucoup d'entre nous, nos prières représentent des listes d'achats de Noël. C'est-à-dire quand il vient à l'église, même quand il commence, c'est-à-dire ces listes même, il dresse devant Dieu. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est-à-dire qu'il ne se focalise pas sur Dieu lui-même. Lui, c'est sa liste d'achats de Noël. Ça, lui, il présente. Ce n'est pas bon. Amen. Qu'est-ce que toi, tu peux donner en retour? Focalise-toi sur la face. Israël était tout le temps focalisé sur quoi? Sur les miracles. Sur la main de Dieu plutôt que sur la face de Dieu. Plus tu te focalises sur la face de Dieu, il y a le meilleur pour toi. Amen. Focalise-toi sur la face de Dieu. Raison numéro 7, on va aller plus vite. C'est l'absence du système de valeurs du royaume de Dieu dans notre vie. Lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. si vous n'avez pas un système de valeurs du royaume dans votre vie est vouée à l'échec. Le système de valeurs d'un royaume, c'est quoi? Jésus dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans la version grecque, la version grecque dit, et toutes ces choses vous poursuivront. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, faut pas te focaliser sur ces choses d'abord. Focalise-toi sur le royaume de Dieu, sur la justice de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, doit, n'est-ce pas, refléter le royaume de Dieu. Ton travail doit refléter quoi? Doit consister à répandre le royaume de Dieu. Tes études doivent constituer à répandre le royaume de Dieu. Tout ce que tu écris, les livres que nous écrivons, les recherches que nous faisons, doivent, n'est-ce pas, se focaliser à répandre le royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Dès que tu n'as pas le système de valeur du royaume de Dieu dans ta vie, tu perds automatiquement le privilège d'être grand dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu fais, même dans ton foyer, l'argent que tu gagnes doit contribuer à faire quoi? À répandre le système du royaume de Dieu sur terre. Amen. C'est ça la valeur. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens, lisons 2 Corinthiens 5, verset 20. Quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 5, verset 20. Il est écrit, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Laisse-moi te dire, quelle est la fonction primordiale d'un ambassadeur? Qu'est-ce que l'ambassadeur fait? Il représente son pays, n'est-ce pas, dans un pays étranger. Quelle est la politique qu'il exerce? La politique du pays qu'il envoie, n'est-ce pas? Et donc l'ambassadeur du Togo en Côte d'Ivoire exerce la politique du Togo en Côte d'Ivoire. Et le territoire où, si tu veux, le domaine de l'ambassadeur est un domaine, n'est-ce pas, un territoire privé. Ce territoire même étant en Côte d'Ivoire représente le sol togolais. Amen. Et donc l'ambassadeur est chargé du moins d'exécuter la politique de sa nation, de son royaume. Ainsi la Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeur. Amen. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, notre patrie c'est où? C'est le ciel. Et sur cette terre, nous sommes chargés de répandre le royaume ou la politique de notre roi. Nous sommes des diplomates sur cette terre. Et notre désir, notre vie, qu'on doit consister à répandre la politique de notre roi. Amen. Tu dois répandre la politique du ciel. L'ambassadeur d'ailleurs n'a pas de position. Amen. J'ai déjà dit que l'ambassadeur n'a jamais de position. Il a la position de sa nation. Amen. Il n'a pas dit je pense. Si le territoire togolais ici, on dit par exemple que nous défendons qu'il y a des enfants qui travaillent, nous opposons au fait que les enfants travaillent dans les champs de cacao. Même s'il est en Côte d'Ivoire, si l'ambassadeur est l'ami du président Gbagbo et qu'on trouve que les enfants travaillent dans les cacao de Côte d'Ivoire, il doit. Si on lui pose la question, il s'élève et dit, nous sommes contre. Il n'a pas de position, il n'a pas dit, je pense. Et donc, tu es chargé d'exécuter la politique de qui? De ton roi. Répondre au roi. Et si Dieu dit, telle chose est mauvaise, tu n'as pas à penser. Aujourd'hui, on voit l'église, on interroge des pasteurs ou des prêtres qui disent, nous pensons, on n'a pas à penser, on a affirmé la position de notre roi. On n'a pas à penser. Un ambassadeur ne pense pas. Tu es chargé d'exécuter la politique de ton roi, la politique de ton pays. Et notre pays, notre patrie, c'est le ciel. Nous devons nous rassurer que nous sommes en train de véhiculer et répandre les lois du royaume de Dieu. Partout où tu es, dans ton travail, à l'école, dans ta famille, tu dois répandre le système et les valeurs du royaume. Si les valeurs du royaume disent, par exemple, ça veut, on n'a pas à penser qu'est-ce que dit de l'homosexualité. On n'a pas à penser, on a affirmé la position du roi. L'Église n'a pas dit je pense qu'il n'y a pas de, on n'a pas à penser. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, la Bible dit, c'est l'abomination. C'est tout. Un point très. Dès que tu es corrompu, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit c'est mauvais, un point, on n'a pas à penser. Dans notre famille, nous devons véhiculer les principes du royaume dans la nation. Amen. Il faut que le système du royaume soit ta vie. Tu travailles avec des collègues, tu es obligé de répondre. Il faut que les gens sachent que tu es un ambassadeur de Christ, même au milieu de ton entreprise, de ta famille. Que les gens sachent, ils voient un changement. Amen. Il faut que l'église change. Les collègues du travail, le service de ta famille. Tu dois répondre, n'est-ce pas? Le système du royaume. Alléluia. La raison numéro 8, les mauvaises priorités. Vous savez, dès que tu as une mauvaise priorité, tu ne peux jamais être grand dans le royaume. Tu ne peux pas accéder à la grandeur. Les mauvaises priorités, c'est quoi? C'est vouloir faire toutes choses sans la priorité. C'est-à-dire, il faut savoir ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire dans la vie. Vous allez voir quelqu'un, il est tellement occupé en journée, qu'il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous faire le bilan de la journée? Il n'a même pas de bilan à produire. Il est allé partout sans rien obtenir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est la priorité. Il y a trois grandes priorités. La première priorité, c'est quoi? C'est Dieu d'abord. Toute ma vie doit être focalisée sur qui suis Dieu. Pas sur l'église. Il y a une différence entre Dieu et l'église. Vous allez voir une soeur qui est mariée. Tout le temps, elle est à l'église. Tout le temps. C'est comme si elle était à l'église même. Donc elle laisse son mari à la maison. Et quand le mari va parler, on dit ça, le pasteur a dit ça, il a un démon. C'est démoniaque. On n'a qu'à chasser ce démon. Prions pour combattre. Plus tu vas prier pour combattre, plus la situation sera plus pire dans le foyer. Mais ça n'a rien à voir. Amen. Rien à voir. Et donc, il y a une différence entre l'église et Dieu. Avec Dieu est la source de notre vie. La première chose, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Et c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas tes parents, mais c'est Dieu d'abord. La deuxième chose, c'est qui? C'est la famille. C'est la famille. Ce n'est pas travail. Si tu mets le travail avant la famille, tu vas détruire ta famille. La deuxième chose, c'est la famille, la priorité. Si tu n'as pas le temps pour tes enfants, pour ton épouse, pour ta famille, tu vas détruire l'éducation de ta famille, tes enfants du moins, tu vas détruire la relation avec ton épouse. Beaucoup de personnes sont tellement focalisées sur le travail. Ils ont divorcé. La femme est tout le temps seule à la maison, il est tout le temps parti. Tout le temps parti. Pourquoi? Parce qu'il a inversé l'ordre des priorités selon Dieu. Lorsque tu lis Genèse 26, il faut lire Genèse 26. Dieu dit, il dit à la Bible, Isaac faisait quoi? Il a bâti l'autel. Ensuite, il a commencé à faire quoi? À mettre sa tente. Et ensuite, à creuser des puits qui étaient son travail. La troisième priorité, c'est le travail. Amen. Savoir faire la priorité des choses. Lisons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Jésus parlait un problème de priorité avec Marthe. Luc chapitre 10 verset 38, la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentrait dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur du moins nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me fasse seule, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. J'ai le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. L'absence de priorité, c'est quoi? C'est être occupé et chargé pour des choses peu importantes. Dès que tu es occupé pour des choses peu importantes, tu n'auras pas de succès dans ta vie. Tu n'auras pas de succès. Tu dois te focaliser de faire les choses avec priorité. Amen. Avec priorité. Si vous partez, peut-être prenez un étudiant qui va étudier et qui n'a pas un programme en disant que mardi, je ferai les mathématiques et puis la science. Le mercredi, je ferai peut-être le français, la langue, le français ou bien l'anglais. Écoute, si tu viens sur ta table d'études avec plein de choses, tu vas tout toucher et tu n'auras rien appris. Parce qu'il y a absence de priorité. Alléluia. Il faut qu'il y ait la priorité dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui est important pour l'instant? Jésus, non, c'était, l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 2 verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et l'apôtre Paul dit, après qu'il ait donné sa vie à Christ, sa vie ne lui appartenait plus. Sa priorité, c'est quoi? C'est Christ. Il avait une priorité bien focalisée. Si tu n'es pas focalisé, tu vas échouer dans ta vie. Le manque d'objectifs fait échouer beaucoup de personnes et de priorités. Chaque jour, il faut que tu aies un agenda. Chaque jour, il faut que tu aies quelque chose à faire pour avancer dans la grandeur. Chaque jour, il faut que tu sortes la journée. Lorsque tu dois sortir de ta chambre, il faut avoir un plan journalier. Si tu n'as pas un plan journalier que tu sors, tu vas te promener. Les hommes viendront bouffer ton temps inutilement. Si tu as quelque chose à faire et que tu sais que c'est l'heure de faire telle chose, même si tu reçois quelqu'un, tu dis, oh, je suis occupé, on peut se voir après. Ça va donner rendez-vous un jour à quelqu'un mardi. La personne n'est pas venue. La personne est venue, je crois, mercredi ou jeudi. J'étais en train de prier matin très tôt. J'étais en train au bureau, en train d'étudier, étudier, travailler et prier. On dit, la personne est là. Il dit, mais moi, c'est pour attendre jusqu'à ce que peut-être ça me dise, je vais finir. Ou bien, elle peut partir et revenir. Elle était là, je pensais, je suis sorti, la personne dit, mais c'est ma priorité. Donc, problème, on peut résoudre ça après. Amen. J'ai des priorités. Si tu es une personne de priorité, tu vas marquer ton temps. Tu vas inspirer confiance. Les gens vont te respecter. Mais si tu n'as pas de priorité, on dit, il faut faire ça, paf, tu fais. Pas de priorité, tu fais ça. À un moment donné, on dit, oh, regarde la même. J'étais un jour dans un bus à Abidjan et je revenais de l'école un samedi. J'avais dans le bus trois policiers. On arrive au plateau, n'est-ce pas, au centre de ville, au centre des affaires. Dès qu'on arrive là-bas, il y a un policier qui dit, je dis ça, le gars dit, oh, l'homme là, dès qu'il arrive, il ne fait pas ça. C'est même pas lui, ça va, il faut le laisser. Donc lui, dès qu'il voit quelque chose, il va descendre, même si ce n'est pas sa destination. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a priorisé. C'est-à-dire que c'est un gars sans objectif. C'est-à-dire qu'il est guidé par son instinct comme un animal. Il n'a pas de priorité. Ils sont en train d'aller quelque part, dès qu'il arrive au plateau, il a vu quelque chose, oh, moi j'ai descendu, après je vais partir. Ça, c'est une personne qui ne peut pas marquer sa génération. Tu ne peux pas être important dans la vie. Amen. Pour être important dans la vie, il faut avoir des priorités. La priorité, c'est quoi? C'est la discipline. Il faut être discipliné. La discipline protège la vision et l'empêche de mourir. Si tu n'as pas de discipline, ta vision va mourir. Il faut être une personne disciplinée. La différence entre ceux qui réussissent, ce n'est pas le don, mais c'est la discipline. Ce n'est pas le don qui fait réussir, c'est la discipline dans les choses. Il y avait un grand savant qui a réussi. J'étais en train de lire son histoire, qui a réussi. Et il n'était pas aussi excellent, il n'était pas vraiment aussi intelligent. Mais il avait beaucoup de faiblesses. Et il a énuméré 13 choses à éviter dans sa vie pour accéder à la grandeur. Et chaque jour, sur son bureau, il regardait ça. Même quand est-ce que ses instincts ou son penchant veut aller vers ça, il fait l'effort parce qu'il s'est donné des priorités. Et cela a permis d'être élevé. Les gens lui ont demandé comment il fait. Il dit que voici les 13 raisons qui m'ont permis d'être grand. Ce sont les priorités que j'ai mentionnées et j'ai évité ça. Discipline. La priorité t'emmène à être discipliné. À ne pas te promener partout. Les gens qui se lèvent, ils ne se promènent pas. Vous savez, celui qui se promène, c'est qui? C'est qui? C'est le diable. Il faut lire dans Jean. Il dit à Dieu, mais tout je viens de me promener sur la terre. Lui se promène sur la terre. C'est le diable. Si tu te promènes, tu risques de devenir un disciple du diable. Un enfant de Dieu ne se promène pas, il fait les pouces. Amen. Tu ne te promènes pas. Dès que tu sors de la maison, tu sais où tu t'en vas. Tu finis, tu rentres. Moi, chaque jour, si j'ai trop fait d'heure dehors, c'est 1h30. Chaque jour, apparemment, je ne sors pas. Il y a des jours, je ne sors pas. Mercredi, je ne sors pas. Vendredi, je ne sors pas. Mais en dehors de ça, lundi, si je sors, c'est tout au plus au mieux. Si j'ai trop fait, c'est 1h30 dehors, puis je rentre. J'ai des priorités à faire. À moins que je parte visiter un membre de l'église, je peux peut-être dépasser. Sinon, si je sors 1h30 au maximum et je rentre chez moi, sois discipliné. De sorte qu'on ne peut pas dire, on a vu, il a entendu, il a vu le gars, il est quelque part, il a vu le pasteur, lui, il quitte matin, il sort de chez lui. Quand il arrive chez toi, il est 16h, il dit, il n'est pas encore rentré à la maison depuis matin. Il se promet, un jour, il m'appelle, un dimanche soir, maman, c'est ça, non? Un lundi, un dimanche soir, il m'appelle, il m'a dit, pasteur, je n'ai pas laissé ma Bible, j'étais dans ton bureau. Il dit, oh, Yako, si tu as perdu ta Bible, on te promène, ça, c'est dangereux. Il se promène tellement. Et quand il est fatigué. Amen. Il faut avoir des priorités dans la vie. Si tu as des priorités, quand un ami vient ou une amie vient, est-ce qu'on peut aller dire non, je suis occupé. J'ai des heures creuses. Je pourrais sortir si tu reviens. N'est-ce pas? Pas de problème. Quelqu'un, donc Mike Morgan disait que si tu as rendez-vous avec quelqu'un, tu lui donnes rendez-vous à 11h. De 11h à 11h30, s'il vient à 11h20, avant de commencer, tu dis qu'on a 10 minutes. 10 minutes finies, on n'a pas fini. Bah, c'est impressionnant. Quand l'Africain, tu vas faire ça, on dit, ah, il se comporte trop. Il est orgueilleux. C'est à cause qu'on est toujours en retard, l'heure africaine. Après l'Afrique en retard, on n'a pas de priorité. Dès que tu vas dans la conversation, c'est un système de retard. Dès que tu viens de l'Europe, que tu veux bien travailler vite, on dit, oh, laisse-le, on se connaît ici. Quelque temps après, va se fatiguer. Et tu t'as vendu, oh, laissez-le. Les gens viennent. Quand j'ai commencé mon stage au ministère du commerce, on arrive au travail, nous, en tant que stagiaire, on était là déjà à 7h30. Mais je vois les gens viennent autour de 11h, 10h. C'est incroyable, l'Afrique. Il vient à 10h, 30 minutes, 11h30, 11h par là, il est ressorti, il est parti. On veut avancer. Tant qu'on n'a pas de priorité dans le temps, on ne peut pas avancer. Amen. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, le Japon, enfin maintenant la Chine est en train de dépasser un peu le Japon en termes de puissance économique. Le Japon travaille, le Japonais travaille plus de 3054 heures par an. En Europe, la seule nation qui travaille un peu, c'est l'Allemagne, 275 par là. Les États-Unis sont au-dessus de 3020. Mais vous savez, le Japon a été complètement détruit. Et le Japon a travaillé plus d'arrache-pied pour atteindre son stade, le stade actuel. Mais nous, on est en retard, on travaille peu. Par exemple, même quand il commence lundi, il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas férié quelque part? Il n'y a pas férié, mais il est fatigué. J'ai dit, mais il est bien fatigué. Quand tu vas à l'école, même si est-ce que tu sais que manquer les cours, même c'est intéressant. Mais ta tête même ne peut pas venir. Moi-même, ça m'arrivait. Moi, c'est comme ça. Quand tu vas, tu n'as pas envie de faire plus. Ah, mais est-ce qu'il ne peut pas venir? D'accord, il y a un problème, il va venir même. Et tu ne veux pas aller au cours. Mais quand il ne vient pas, tu ne fais rien, tu es là, tu causes seulement. Là, c'est l'Afrique. L'Afrique. Et quand, lorsque tu es là, quand il y a un problème, tu sors pour voir si c'est lui qui vient. Parce que tu ne veux même pas qu'il vienne. Manque de priorité. Parce qu'on n'est pas discipliné. Alléluia. On n'est pas discipliné. Que Dieu nous aide. La discipline te donne ce que le Saint-Esprit va donner. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu vas le succès. Si on t'a dit que tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras le succès. Il faut dire que ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne va pas prendre ta volonté. J'ai dit à quelqu'un un jour, si le Saint-Esprit te donne, par exemple, une prophétie, donne une prophétie en disant que si à la personne, je lui donne une voiture, par exemple, et que toi-même, tu ne sais pas si on dit une voiture ou un voiture, le Saint-Esprit va venir te dire une voiture. Le Saint-Esprit a donné la prophétie. La faute, là, c'est toi. Ce n'est pas son problème. Le Saint-Esprit va donner une voiture. C'est le Saint-Esprit qui a fait la faute ou bien c'est toi? C'est toi. Pas le Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention. Tu peux avoir le Saint-Esprit échoué. La discipline te donne de réussir. Le Saint-Esprit te donne l'espace de te rappeler cette chose. C'est tout. Amen. Et donc, apparemment, les gens disent que on compte sur le Saint-Esprit, ça va aller, on compte
avancer sur le Saint-Esprit, tu seras surpris. Très surpris. Si tu veux faire que tu veux réussir, commence à planifier et avoir des priorités. Alléluia. Raison numéro 9. Le doute que nous avons d'un Dieu ou le doute que Dieu est notre Père aimant. Le doute que Dieu est notre Père aimant. Un Père qui aime. Prenons Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. Il est écrit à Matthieu 6, verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus grande, plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Si vous voulez, on poursuit. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on ne regarde pas Dieu comme un père pour nous. On regarde Dieu comme quelqu'un qui existe, quelque chose de ta part avant de te donner. Tu as l'impression qu'il faut faire quelque chose d'abord avant que Dieu te donne en retour. Non. Dieu est un père amant. Jésus pouvait dire que il dit aussi mauvais que vous êtes. Lequel d'entre vous, lorsque son fils lui demande du pain, lui donne une pierre, du caillou, ou lui demande du poisson, lui donne un serpent? Il dit, aussi mauvais que vous êtes, vous ne le faites pas. Il dit, et à plus forte raison, le Père qui est dans les cieux. Dieu est un Père aimant. Il faut comprendre que Dieu prend soin de toi. Et c'est pourquoi tu dois aller vers Dieu avec assurance. Avec assurance. Réclame les choses avec assurance. On a l'impression que dès qu'on a péché, c'est fini. Dieu a effacé notre nom sur sa liste. Et donc, il faut faire des efforts pour trouver. C'est pourquoi même s'il a péché, il va jeûner. S'il a jeûné, il n'est pas sûr. Il va venir faire offrande à l'église. Par moi, il donne au pasteur pour corrompre Dieu. Écoute, le Dieu qu'on adore là, ce n'est pas un Dieu africain. Le Dieu africain, on peut le corrompre. Et si tu vas chez un marabout, et que le marabout lui-même, il sait que le monsieur là, ce n'est pas ton mari. Tu lui donnes l'argent, tu lui donnes un mouton, tout ça là. Il n'y a pas de problème à faire ça. Donc on peut corrompre le Dieu africain. Mais le Dieu qu'on adore, pas le corrompre. Amen. Ce n'est pas ton argent qui fait que Dieu te pardonne. Ce n'est pas ton argent qui fait que Dieu fait pour toi. Amen. Il est un père aimant. Il a décidé de t'aimer depuis l'origine. La Bible déclare qu'il nous a aimé le premier. Il n'a pas exigé de ta part quelque chose pour venir à la croix. Amen. Il n'a pas exigé de ta part quelque chose. Il a décidé de venir à cause de son amour pour toi. Amen. Et Jésus vous l'a dit, mais vous inquiétez pour rien. Pour la nourriture, pour le vêtement. Regardez les oiseaux, n'est-ce pas, du ciel. Ne sèment ni ne moissonnent. Mais ces oiseaux sont nourris. Mais pourquoi vous inquiétez, vous? Ne vous inquiétez de rien. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 dit, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul, lui-même prend soin de vous. Amen. La Bible dit de décharger sur qui? Sur le Seigneur Jésus, nos soucis. Quel est ton souci? Quel est le problème que tu as? Décharge-toi sur le Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quelqu'un prend Philippiens 4, verset 6, lis. Philippiens 4, verset 6.
faites connaître vos besoins à qui? On a dit à ton père, on a dit à ta maman, on a dit au pasteur, on a dit à l'église, on dit à qui? À Dieu. Mm-hmm. Amen. On dit par des prières et des supplications. On n'a pas dit par des pleurs. Amen. Par des prières et des supplications. Dites, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi on dit à Dieu? Parce que c'est un Père aimant. Alléluia. C'est un Père qui aime et qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Ce dont tu as besoin. La raison numéro 10, c'est les personnes qui n'ont pas de persévérance. On va aller rapidement. Vous savez, la persévérance est le don qui permet aux gens de réussir. C'est l'élément le plus important du succès. La persévérance. Le succès et la réussite sont liés à la persévérance. Amen. Le succès et la réussite sont liés à la persévérance. En Luc 8, verset 15, la Bible dit, Jésus dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc le fruit est le résultat de la persévérance. J'avais déjà expliqué ici. Vous connaissez celui qui a fait la boisson qu'on appelle 7-Up. L'équipe 7-Up. Il a fait une fois, ça a échoué. Deux fois, ça a échoué. Trois fois, ça a échoué. Quatre fois, ça a échoué. Si c'est un Africain, il allait s'arrêter là. L'Africain n'est pas persévérant. Dès qu'il commence à buter, il abandonne. Il a fait jusqu'à la septième fois. Quand ça a marché, il a mis 7-Up. Ça veut dire que celui qui était l'inventeur de la lampe à incandescence, c'est Swan. Mais Swan n'a pas fait plus de 6 essais. Il a fait première fois, deuxième fois, troisième, 5, 6, paf, il a laissé. Mais Thomas Edison n'était pas l'inventeur, il n'est pas le géniteur, n'est-ce pas, de l'ampoule à incandescence. Il a fait 6000 essais pour avoir l'ampoule. 6000 essais. C'est la persévérance. Il y a un colonel aux États-Unis qu'on appelle Colonel Sanders qui a créé l'entreprise qu'on appelle KFC aux États-Unis. C'est la plus importante entreprise, le restaurant le plus important au monde dans la restauration en termes de poulet frites. Le colonel Sanders, dès qu'il a eu cette idée de créer, n'est-ce pas, un restaurant avec du poulet frites, il avait seulement qu'un poulet. Il a fait le menu, il allait de banque en banque pour proposer, pour que la banque puisse subventionner son projet. La première banque a refusé, la deuxième banque a refusé. Il a parcouru jusqu'à 10 banques, les gens ont refusé. Il avait toujours son truc, chaque fois il va proposer. Jusqu'à 1000 banques, les gens ont refusé. Il a fait 1006 banques, les banques ont refusé. La 1007e banque, les gens ont subventionné. Quelqu'un qui parcourt 1007 banques, il faut quoi? Vous savez, si vous êtes sûr de votre projet, soyez persévérant. Si vous êtes sûr de votre vision, soyez persévérant. Ne vous laissez jamais distraire par quelqu'un. Amen. Sois toujours persévérant parce que seule la persévérance produit des fruits. Alléluia. Seule la persévérance produit du fruit. Et le numéro 11, la raison numéro 11, c'est le refus d'être discipliné. Amen. Parce que j'ai dit tout à l'heure, on refuse d'être discipliné. Lisons un texte en 1 Corinthiens 6, 12 et 1 Corinthiens 14, 24. On va finir. 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12, la Bible déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 14, 24. 24, chapitre 14, 1 Corinthiens dit, mais si, 1 Corinthiens 14, verset 24, non, en principe, ce n'est pas le verset, je me suis trompé dans. Mais après, c'est le même texte. Amen. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Allez, tu peux tout faire, mais il faut être discipliné. Amen. Il faut être discipliné. Samson n'était pas discipliné, il a perdu la royauté. Samson, Dieu a dit, Samson sera grand. Mais qu'est-ce que Samson fait? Samson aimait tellement les femmes. Là, même on lui a dit qu'il ne va pas voir le vin, mais il passe toujours, c'est dans les champs de vie qu'il est toujours dans les champs de vie. On lui dit, bah, il y a un endroit, il ne faut pas partir. Chacun sait là, chacun connaît ses faiblesses, n'est-ce pas? Donc c'est à cause de ta faiblesse qu'on te dit de te discipliner. Samson avait les faiblesses. Et il se laissait toujours aller dans ses penchants. Et il est allé, c'est à cause d'une femme d'ailleurs qu'on l'a, n'est-ce pas? On l'a percé les yeux. Discipline-toi. Sinon tu vas perdre ta royauté. Tu vas perdre la grandeur. Amen. Chaque fruit a sa saison. N'est-ce pas? Ta saison viendra. Chaque fruit a sa saison. La saison des mangues est différente de la saison des avocats. N'est-ce pas? Chaque fruit a sa saison. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de porter du fruit aujourd'hui que toi, tu ne vas pas porter du fruit demain. Amen. Ce n'est pas parce que, vous savez, lorsque vous êtes à un carrefour, il y a le feu rouge, il y a le feu vert. Ceux qui sont au feu rouge font quoi? Ils attendent. Ceux qui sont au feu vert passent. Ça ne veut pas dire que le feu vert ne viendra pas pour les autres. Ça ne veut pas dire que le feu vert ne viendra pas pour toi. Les gens peuvent passer maintenant, n'est-ce pas? Mais le feu vert viendra pour toi et tu vas passer. Et quand tu seras en train de passer, il faut leur dire, s'arrêter. Parce que c'est ta saison. Donc, qu'à contempler que tu regardes. Amen. Chaque arbre a sa saison. Donc, tout homme a sa saison. Amen. La saison de ton mariage viendra. La saison de ton emploi viendra. La saison de ton élévation, ta prospérité, l'abondance viendra. Amen. Ta saison viendra. Tu vas demander au Seigneur de t'aider en termes de discipline, en termes de priorité, en termes de valeur du système du royaume, et que Dieu t'aide à éviter la mentalité du consommateur. Dis au Seigneur de t'aider à voir, n'est-ce pas, la persévérance dans tout ce que tu fais. Même si tout va mal, il faut persévérer. N'abandonne jamais. Focalise-toi sur la persévérance. N'abandonne jamais, n'est-ce pas, ce que tu es en train de faire. Même si tout est contraire à ta vie. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider dans ce sens. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prie le Seigneur. Dieu te destine à la grandeur, à la royauté, à l'abondance. Dis au Seigneur de t'aider dans ce sens.
Si vous avez été béni par ce message et souhaitez avoir votre information, veuillez nous contacter à Église Évangélique, la Maison de la Destinée, 6 à Idranaoui, téléphone 747-45-74-239-87-17. Soyez bénis et grandement favorisés. La Maison de la Destinée est là.